Chapitre 2.51 L'adieu. Pour la dernière matinée du séjour de Abdu'l-Bahâ à Londres, beaucoup d'amis se rassemblèrent à Cadogan Gardens et à la gare pour lui dire au revoir. Un médecin zoroastrien organisa chez lui une cérémonie émouvante et intéressante et envoya à quelques Parsis de Bombay un télégramme soigneusement rédigé comme suit. La torche de la vérité flambe à nouveau à l'est et à l'ouest grâce à Abdu'l-Bahâ. Nota, le nom de Parsi, Perse, est celui des habitants du Farsistan actuel, noyau de la Perse antique, où vit de nos jours la majorité des Guèbres. Zoroastriens demeuraient en Iran malgré les persécutions. Religion officielle des empires perses arsacides et sassanides. Depuis 716, les Parsis, chassés par les musulmans, se sont fixés en Inde en quasi-totalité. Ils y ont apporté leur feu sacré et ont Bombay pour centre religieux depuis 1640. Chapitre sur les religions, section sur le parsisme, zoroastrisme ou mazdéisme, Quid, édition Robert Laffont et Société des encyclopédies Quid, Paris, 1984. Instruit par ses frères, ce disciple d'une des plus anciennes religions dans le monde avait apporté avec lui une huile sacrée d'un parfum rare, avec laquelle il oignit la tête et la poitrine de Abdu'l-Bahâ et toucha ensuite les mains de tous ceux présents. Puis il posa autour du cou et des épaules de Abdu'l-Bahâ une guirlande exquise de bourgeons de roses et de lilas. La dernière vision que les amis eurent à la gare Victoria fut celle d'un visage et d'une silhouette vénérable à la fenêtre qui lançait au dehors un dernier regard plein de bienveillance et de tendresse à ceux qu'il quittait. Chapitre 2.52 Entrevue au Weekly Budget 23 septembre 1911 Nota, article tiré d'une entrevue accordée par Abdu'l-Bahâ au Weekly Budget. Quelques-unes des expériences de ses 40 ans d'emprisonnement. Dans un appartement à Cadogan Gardens, est assis un oriental spirituellement illuminé dont la récente venue à Londres marque la dernière jonction entre l'Est et l'Ouest. L'enseignement de Abdu'l-Bahâ a déjà conduit des milliers d'Anglais et d'Anglaises à se mêler à des Orientaux venant de tous les endroits de l'Est. Sur la base de l'aide mutuelle, de la fraternité et de l'adoration de Dieu, sans égard à la croyance et à la confession, ils ont joint leurs mains avec une ardeur et un amour fraternel à l'encontre des théories de certains poètes et philosophes sceptiques. La plus grande partie de la vie de Abdu'l-Bahâ s'est déroulée dans une prison orientale qu'il endura allègrement plutôt que d'abjurer sa foi, dont l'un des principes est l'absolue égalité des âmes, sans égard aux différences physiques, telles que le sexe et la couleur. Il ne reconnaît aucune distinction de classe, excepté celle conférée par le service et l'esprit d'amour fraternel. Pour cette opinion et d'autres encore, il fut tenu prisonnier pendant 40 années dans la ville forteresse de Akka, en Palestine, nota aujourd'hui Akko, en Israël. Quand je demandai à m'entretenir avec lui, on me dit de venir tôt, et je vins en conséquence à 9h. C'était déjà la mi-journée pour Abdu'l-Bahâ, puisqu'il se levait à 4h, et qu'il avait déjà vu 18 personnes avant son petit déjeuner à 6h30 du matin. De nombreuses personnes de différentes langues et nationalités l'attendaient dans la salle de réception. Nous nous assîmes en cercle en face de Abdu'l-Bahâ, qui demanda s'il y avait des questions que nous souhaitions lui poser. Je lui dis que mon rédacteur en chef m'avait envoyé m'informer sur sa vie en prison, et Abdu'l-Bahâ aussitôt relata d'une façon simple et impersonnelle une histoire des plus remarquables que l'on puisse concevoir. À 9 ans, j'accompagnais mon père, Baha'u'llah, dans son exil pour Bagdad. 70 de ses disciples étaient avec nous. Ce décret d'exil, après de persistantes persécutions, avait pour but d'effacer de Perse d'une manière frappante ce que les autorités prenaient pour une religion dangereuse. Baha'u'llah fut banni et exilé d'un point à un autre avec sa famille et ses disciples. Quand j'avais 25 ans, nous fûmes conduits de Constantinople, nota ancienne capitale de l'Empire ottoman, aujourd'hui connue sous le nom d'Istanbul, à Andrinople, Nauta, aujourd'hui Edirne, ville située à la pointe occidentale de la partie européenne de la Turquie. Et de là, nous partîmes escortés d'une garde de soldats à la ville-forteresse de Akka, où nous fûmes emprisonnés et surveillés de près. Le premier été. Nous n'avions aucune communication avec le monde extérieur. Chaque miche de pain était coupée et ouverte par le garde pour voir si elle ne contenait pas de message. Tous ceux qui croyaient en la manifestation Bahá'í, enfants, hommes et femmes, étaient emprisonnés avec nous. Nous étions 150 dans deux pièces et nul n'avait la permission de quitter l'endroit à l'exception de 4 personnes qui allaient sous escorte au bazar faire le marché tous les matins. Le premier été fut épouvantable. Akka est une ville infestée par la fièvre. Il était dit qu'un oiseau tentant de voler au-dessus tomberait mort. La nourriture était pauvre et insuffisante. L'eau était tirée d'un puits infecté et le climat et les conditions étaient tels que même les natifs de la ville tombaient malades. De nombreux soldats succombèrent et 8 de nos 10 gardes moururent. Durant l'intense chaleur, la malaria, la fièvre typhoïde et la dysenterie frappèrent les prisonniers, ce qui fit que tous, hommes, femmes et enfants, furent malades en même temps. Il n'y avait pas de médecin, pas de médicaments, pas de nourriture saine et aucun traitement d'aucune sorte. J'avais l'habitude de faire du bouillon pour les prisonniers, et comme j'avais beaucoup de pratique, je faisais du bon bouillon, dit Abdu'l-Bahá en riant. À cet instant, un des persans m'expliqua que c'était en raison de sa merveilleuse patience, de sa serviabilité et de son endurance que Abdu'l-Bahá fut toujours appelé le maître. Chacun pouvait facilement sentir son autorité au travers de sa complète indépendance par rapport au temps et au lieu et de son détachement absolu de tout ce qu'une prison turque pouvait infliger. De meilleures conditions. Après 2 années d'emprisonnement des plus strictes, la permission me fut accordée de trouver une maison afin que nous puissions vivre en dehors des murs de la prison, mais toujours à l'intérieur des fortifications. Beaucoup de croyants vinrent de Perse pour nous rejoindre, mais on ne leur permettait pas de le faire. 9 années passèrent. Quelquefois nous étions beaucoup mieux et d'autres fois nettement moins bien. Cela dépendait du gouverneur, qui, s'il s'avérait être un souverain bon et clément, nous accordait la permission de quitter les fortifications et permettait aux croyants de se rendre à notre demeure librement. Mais quand le gouverneur devenait plus rigoureux, davantage de gardes étaient placés autour de nous et souvent des pèlerins venus de loin étaient renvoyés. J'appris par la suite d'un persan qui, durant ces temps troublés, était un membre du foyer de Abdu'l-Bahá, que le gouvernement turc ne pouvait pas croire que l'intérêt des visiteurs anglais et américains fût purement spirituel et non politique. Aussi, souvent refusa-t-on à ces pèlerins la permission de le voir, et de nombreuses fois, tous les voyageurs venant d'Amérique étaient simplement récompensés par une vision fugitive de Abdu'l-Bahá à la fenêtre de sa cellule. Le gouvernement pensait que le tombeau du Bab, imposant bâtiment sur le mont Carmel, était une fortification érigée avec l'aide de l'argent américain et qu'il était en train d'être armé et transformé secrètement en garnison. La suspicion grandit avec chaque nouvelle arrivée. Il en résulta davantage d'espions et de gardes. Le comité de Abdu'l-Hamid. Un an avant que Abdu'l-Hamid ne fût détrôné, il envoya un comité d'investigation extrêmement arrogant, insultant et perfide. Son président, Arif Bey, était l'un des hommes du gouverneur, et 3 commandants d'armée de rangs divers l'accompagnaient. Immédiatement après son arrivée, Arif Bey se mit à me dénoncer et à essayer d'avoir des preuves suffisamment fortes pour justifier que je sois envoyé à Fizan ou jeté à la mer. Fizan est une station de caravane à la frontière vers Tripoli où il n'y avait ni maison ni eau. C'est à 1 mois de voyage de Akka à dos de chameau. Le comité s'enquit 2 fois de ce que j'avais à dire pour ma propre défense et 2 fois je répondis « Je connais votre but, je n'ai rien à dire ». Cela mit tellement Arif Bey en furie qu'il déclara qu'il retournerait à Constantinople et rapporterait un ordre du sultan pour me faire pendre aux portes de Akka. Lui et son comité mirent les voiles munis d'un rapport contenant les accusations suivantes. Abdu'l-Bahá est en train d'instituer une nouvelle nation dont il sera le roi. Abdu'l-Bahá est en train d'élever la bannière d'une nouvelle religion. Abdu'l-Bahá a construit ou a été à l'origine de fortifications à Haïfa, un village voisin, et il est en train d'acheter toutes les terres environnantes. À cette époque, un bateau italien accosta dans le port, envoyé sur ordre du consul italien. Il avait été prévu que je m'enfuirais de nuit à son bord. Les baïs de Akka m'implorèrent pour que je parte, mais j'envoyai ce message au capitaine. Le Bab ne s'est pas enfui. Baha'u'llah ne s'est pas enfui. Je ne m'enfuirai pas. Et le bateau leva les voiles après avoir attendu 3 jours et 3 nuits. C'est pendant le retour du comité du sultan que le premier obus fut lancé dans le camp de Abdul-Hamid et que le premier coup de feu de la liberté fut tiré dans le foyer du despotisme. C'était l'arme à feu de Dieu, dit Abdu'l-Bahá avec un de ses sourires merveilleux. Quand le comité atteignit la capitale turque, il fallait penser à des choses plus urgentes. La ville était en état d'effervescence et de rébellion, et le comité, en tant que membre du personnel du gouvernement, fut chargé d'enquêter sur l'insurrection. Pendant ce temps, le peuple instaura un gouvernement constitutionnel et Abdu'l-Hamid n'eut aucune chance d'agir. La libération. Avec l'avènement de la suprématie des jeunes Turcs, grâce au comité Union et Progrès, tous les prisonniers politiques de l'Empire ottoman furent relâchés. Les événements permirent d'enlever les chaînes de mon cou et de les passer à celui d'Hamid. Abdu'l-Bahá sortit de prison et Abdu'l-Hamid y entra. « Que devint le comité d'investigation ?» demanda quelqu'un, rompant le profond silence qui avait suivi le récit de cette frémissante page d'histoire. Arif Bey, continua Abdu'l-Bahá, fut tué de 3 balles. Le général fut exilé, le gradé suivant mourut, et le troisième homme s'enfuit au Caire, où il rechercha et reçut l'aide des baïs. Nous direz-vous ce que vous avez ressenti en prison et ce que vous pensez de votre liberté ? Demandai-je. Nous sommes heureux que vous soyez libres. « Merci, dit-il gracieusement et continuant, la liberté n'est pas une question d'endroit, c'est une condition. J'étais reconnaissant en prison et le manque de liberté m'était très plaisant, car ces jours furent passés dans le sentier du service, portant des fruits et des résultats sous les plus grandes difficultés et les plus grandes épreuves. À moins d'accepter de dures vicissitudes, on ne peut atteindre cette condition. Pour moi, la prison est la liberté. Les troubles me reposent. La mort est la vie, et être méprisé est un honneur. Voilà pourquoi j'étais heureux durant tout ce temps en prison. Quand quelqu'un est libéré de la prison du moi, c'est une vraie libération, car cette prison du moi est la plus grande. Quand cette libération a lieu, alors on ne peut plus être réellement emprisonné. Quand ils mettaient mes pieds dans des cales, je disais aux gardes, « Vous ne m'emprisonnez pas vraiment, car ici j'ai de la lumière et de l'air et du pain et de l'eau. » Il viendra un temps où mon corps sera dans la terre, et je n'aurai ni lumière, ni air, ni nourriture, ni eau, mais même à ce moment-là, je ne serai pas prisonnier. Les afflictions que rencontre l'humanité, quelquefois, braquent notre conscience sur nos limitations, et cela est une véritable prison. La libération consiste à faire de notre volonté une porte par laquelle les confirmations de l'esprit entrent. Cela ressemblait tellement à de la théologie ancienne que le moderne en moi se réveilla, me demandant si la discipline pouvait être compensée par l'effort. Que voulez-vous dire par les confirmations de l'esprit ? Les confirmations de l'esprit sont tous ces pouvoirs et ces dons avec lesquels certains naissent et que les hommes quelquefois appellent le génie, mais pour lesquels d'autres doivent faire des efforts pénibles. Elles échoient à l'homme ou à la femme qui accepte sa vie avec un acquiescement rayonnant. Telle était la qualité que Abdu'l-Bahá nous avait tous soudainement inspirée, tandis qu'il nous disait au revoir. Ce fut une expérience remarquable d'entendre quelqu'un qui avait passé 40 ans en prison déclarer « Il n'y a pas de prison sauf celle du moi ». Et ce messager de l'Est en robe blanche forgeait notre esprit à cette conviction, en nous montrant la sortie. Non par le chemin de la renonciation, mais par celui du détachement. un acquiescement rayonnant. Ce sentier lumineux pour sortir de la plus grande prison du moi, comme Abdu'l-Bahá avait si magnifiquement dénommé ces barreaux qui nous séparent de notre propre épanouissement. Chapitre 2.53 Salutation d'adieu pleine d'affection. Après avoir quitté Londres et durant son séjour de 2 mois à Paris, Abdu'l-Bahá envoya fréquemment des messages à ses amis anglais, dont certains firent le voyage jusque-là pour y profiter de ses conférences. À la veille de son départ pour Alexandrie, il donna le message d'adieu suivant en guise d'admonition aux populations de France et d'Angleterre. « Travaillez, disait-il sans cesse, pour le jour de la paix universelle. Efforcez-vous toujours d'être unis. La bonté et l'amour dans le sentier du service doivent être vos instruments. C'est avec une affection débordante que je dis adieu aux gens de France et d'Angleterre. Je suis très content d'eux. Je leur conseille de fortifier jour après jour le lien d'amour et d'amitié à cette fin. Qu'ils deviennent l'incarnation sympathique d'une seule nation. Qu'ils développent entre eux une fraternité universelle pour garder et protéger les intérêts et les droits de toutes les nations de l'Est. Qu'ils déploient la bannière divine de la justice. Qu'ils traitent chaque nation comme une famille composée d'autant d'enfants de Dieu. Et qu'ils sachent qu'aux yeux de Dieu, les droits de tous sont égaux. Car nous sommes tous les enfants d'un seul Père. Dieu est en paix avec tous ses enfants. Pourquoi devraient-ils s'engager dans la lutte et la guerre entre eux? Dieu fait pleuvoir sa bonté. Pourquoi les habitants de ce monde devraient-ils montrer de la méchanceté et de la cruauté? Je prierai pour vous afin que vous soyez illuminés par la lumière de l'Éternel. Chapitre 2.54 Salutation de Abdu'l-Bahá, envoyé de Paris pour Londres. Octobre 1911. Compte-rendu verbal de Madame Enthoven à l'attention de tous les amis et maintenant consigné de mémoire par écrit. Abdu'l-Bahá envoya ses salutations à tous, demandant à tous de continuer d'acquérir de la force dans leur foi et du courage dans sa proclamation. Il parla beaucoup du plaisir qu'il avait ressenti dans l'atmosphère de l'Angleterre. Il dit qu'il y avait chez les Anglais une force de caractère et une fermeté qu'il aimait et admirait. Il y avait de l'honnêteté et de la droiture. Ils étaient lents à démarrer une nouvelle idée, mais quand ils le faisaient, c'était alors parce que leur esprit et leur bon sens leur avaient dit que l'idée était bonne. Les Anglais en tant que nation lui ont beaucoup plu. Les croyants, ajouta-t-il, doivent manifester leur foi dans leur vie quotidienne, afin que le monde puisse voir la lumière briller sur leur visage. Un visage rayonnant et épanoui réjouit les gens sur leur chemin. Si vous êtes triste, lorsque passe un enfant qui rit, l'enfant, voyant votre visage triste, cessera de rire, ne sachant pourquoi. Si le jour est sombre, combien est prisé un rayon de soleil. Ainsi donc que les croyants montrent un visage souriant et heureux, rayonnant comme les rayons du soleil dans l'obscurité. Que la lumière de la vérité et de l'honnêteté brille en eux, afin que tous ceux qui les regardent sachent que leur parole dans les affaires ou dans les loisirs sera une parole digne de confiance et à laquelle on peut se fier. Oubliez votre moi et travaillez pour tout le genre humain. Souvenez-vous toujours qu'on travaille pour le monde, non pas pour une ville ni même pour un pays, parce que comme tous sont frères, ainsi chaque pays est comme le nôtre. Souvenez-vous par-dessus tout de l'enseignement de Baha'u'llah concernant les commérages et les ragots au sujet des autres. Les histoires racontées à propos des autres sont rarement bonnes. Il vaut mieux une langue silencieuse. Même le bien peut être préjudiciable s'il est dit au mauvais moment ou à la mauvaise personne. Finalement, Abdu'l-Bahá envoya ses salutations et ses bénédictions à tous et m'assura que constamment il pensait à nous et priait pour nous. À un homme distingué qui le questionnait, il fit remarquer « Les débuts de toutes les grandes religions furent purs, mais les prêtres, prenant possession de l'esprit des gens, les remplirent de dogmes et de superstitions, et la religion devint peu à peu corrompue. Je ne viens enseigner aucune religion nouvelle. Mon seul désir est, grâce aux bénédictions de Dieu, de montrer la route vers la grande lumière. Touchant amicalement l'homme distingué sur l'épaule, comme un père bienveillant toucherait son fils, il partit en disant « Je ne suis pas un prophète, seulement un homme comme vous. » 29 novembre 1911. Chapitre 2.55 Message au bailli de Londres pour le jour de Abdu'l-Bahá. Bonne nouvelle, les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Bonne nouvelle, les armées des anges descendent du paradis. Bonne nouvelle, le soleil de vérité se lève. Bonne nouvelle, la nourriture céleste est envoyée de là-haut. Bonne nouvelle, la trompette sonne. Bonne nouvelle, la bannière de la plus grande paix flotte déployée au loin. Bonne nouvelle, la lumière de la lampe de l'unicité de l'humanité brille avec éclat. Bonne nouvelle, le feu de l'amour de Dieu s'embrase. Bonne nouvelle, l'Esprit Saint est déversé. Bonne nouvelle, car la vie éternelle est ici. Ô vous qui dormez, réveillez-vous. Ô vous qui êtes insouciants, apprenez la sagesse. Ô aveugles, recevez la vue. Ô sourds, entendez. Ô muets, parlez. Ô morts, levez-vous. Soyez heureux, soyez pleins de joie. C'est le jour de la proclamation du Bab. C'est le festival du précurseur de la beauté bénie, Nota Baha'u'llah. C'est le jour de l'aube du matin de direction, gracieusement transmis par Madame Enthoven. Voyage de Abdu'l-Bahá de 1908 à 1913. 1908, septembre, Abdu'l-Bahá recouvre sa liberté, voire Dieu passe près de nous, Shorif Endi, page 270-271. Maison d'édition Bailly, Bruxelles, 1976, et Abdu'l-Bahá, The Center of the Covenant, Bahá'í History Calendar, 1993, 149-150 Bahá'í Era, The National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of Hawaiian Island, 1992. 1910, septembre, départ pour l'Égypte. 1911. 11 août, embarquement en Égypte à bord du SS Corsica pour Marseille. 19 août, bref arrêt à Thonon-les-Bains. 4 septembre, arrivée à Londres. 8 septembre, fête de l'unité chez Mademoiselle Eugy Rosenberg. 9 septembre, première visite à Vanhurst, Byfleet. 10 septembre, première allocution publique au Temple de la Cité. 13 septembre, réunion chez Madame Thornburg Cropper. 17 septembre, allocution à l'église de Saint-Jean à Westminster. 22 septembre, fête de l'unité chez Mademoiselle Jack et Eric. 23-25 septembre, visite de Bristol. 28 septembre, seconde visite à Vanhurst, Byfleet. 29 septembre, réunion d'adieu à Abdu'l-Bahá. 30 septembre, allocution au siège de la Société théosophique. 1er octobre, célébration d'un mariage bahaï. 3 octobre, départ de Londres pour Paris. 2 décembre, départ de Paris pour l'Égypte. 1912. 25 mars, embarquement en Égypte à bord du Cédric pour New York via Naples. 29 mars, arrivé à Naples, où Shoghi Effendi est contraint par les autorités médicales de renoncer à accompagner Abdu'l-Bahá aux États-Unis. 30 mars, embarquement à Naples, à bord du Cédric pour New York. 11 avril, arrivé à New York. 5 décembre, embarquement à New York, à bord du SS Celtic pour Liverpool. 13 décembre, arrivé à Liverpool. 16 décembre, arrivé à Londres. 1913. 6 janvier, visite d'Édimbourg. 15 janvier, visite de Bristol. 21 janvier, départ de Londres pour Paris. 6 février, visite de Versailles. 30 mars, départ de Paris pour Stuttgart. 9 avril, départ de Stuttgart pour Budapest via Vienne. 25 avril, retour à Stuttgart. 1er mai, départ de Stuttgart pour Paris. 13 juin, embarquement à Marseille à bord du SS Himalaya pour l'Égypte. 16 juin, arrivée en Égypte. 5 décembre, retour à Haïfa, clôturant ses voyages historiques. Préface et introduction. Préface de la traduction française. Parmi les ouvrages de référence de la littérature bahaï, il en existe plusieurs dans lesquels on peut trouver une réponse thématique de Abdu'l-Bahá à certaines questions ou le contenu d'allocutions qu'il a donné lors de ses voyages en Occident. Les plus connus sont les leçons de Saint Jean d'Acre, les causeries de Abdu'l-Bahá à Paris, Abdu'l-Bahá à Londres et The Promulgation of Universal Peace. La présente traduction vient donc enrichir la littérature bahaï en langue française du troisième fleuron de ce type d'ouvrage de référence. Seul le livre The Promulgation of Universal Peace, qui est l'équivalent pour les États-Unis de ceux concernant Paris et Londres, n'a pas encore été traduit en français. Pourquoi accorder tant d'importance à ces ouvrages? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les propos de Abdu'l-Bahá, qui sont ceux d'un homme proche de 70 ans, dont la culture et l'environnement furent exclusivement persans et moyen-oriental jusqu'avant son départ pour l'Ouest, et dont la vie de 8 ans à 64 ans fut parsemée d'exils, d'emprisonnements et d'épreuves en tout genre, les propos de cet homme saint, donc, parlent au cœur de l'occidental jeune, libre et bouillonnant d'énergie. Peut-être serait-il bon, à l'attention de ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de la foi bahaï, d'insister sur le rang unique de Abdu'l-Bahá. Cet être incarne au plus haut degré les vertus humaines telles que la sagesse, le contentement, la modestie, la bienveillance, la courtoisie et la modération. Durant toute sa vie, Abdu'l-Bahá a témoigné d'une fidélité exemplaire à l'égard de son père, Baha'u'llah. Il l'a servi comme nul autre fils ne pourrait servir son père. Il l'a suivi dans ses exils et jusque dans ses cellules. Il lui a obéi en ne montrant toujours que joie et loyauté. L'idée de se flatter d'être le fils d'une manifestation divine ne l'a jamais effleuré. Bien au contraire, sa vie n'a été qu'humilité et service envers autrui. Cette fidélité exemplaire à l'égard de son père s'est prolongée par une fermeté inébranlable dans l'application du testament de la plume de gloire, le Kitab-i Aqd de Baha'u'llah, testament qui faisait de lui le centre de l'alliance de Baha'u'llah avec l'humanité. Sans cette fidélité exemplaire et cette fermeté inébranlable, la cause divine proclamée par l'Ancien des Jours, nota non désignant Baha'u'llah, n'aurait point l'éclat resplendissant dont elle s'est ornée au cours de ce second siècle de l'ère bahaï. Il est d'ailleurs pertinent de noter que Baha'u'llah surnomma Abdu'l-Bahá le mystère de Dieu, le désigna comme l'exemple parfait et lui attribua le titre de maître. Abdu'l-Bahá témoigne d'une compréhension à un degré inégalable par le simple mortel de la révélation divine dont Baha'u'llah est la source. Et puis il y a cette patience et cette virtuosité avec lesquelles il a su expliquer au peuple de l'Ouest les enseignements de la beauté bénie. Nota non désignant Baha'u'llah. Quand on pense à l'âge qu'avait Abdu'l-Bahá quand il a commencé ses voyages, 67 ans, et aux conditions dans lesquelles le transport se déroulait à l'époque, il n'est pas peu dire que cette entreprise fut héroïque. Trois des quatre ouvrages mentionnés précédemment sont les merveilleux fruits de ces voyages épiques. Ces ouvrages sont exaltants à lire. Leur lecture génère un engouement débordant d'enthousiasme. Abdu'l-Bahá y est céleste et pédagogue, comme s'il possédait un pied et un œil dans l'autre monde et nous disait clairement et sereinement ce qui nous attend là-haut en nous aidant à comprendre comment accéder à ce royaume éternel. Abdu'l-Bahá y est céleste, car de son discours jaillit un océan de dévotion et d'amour à l'égard de Dieu. Il y est pédagogue, car ses réponses sont simples et concises, entièrement adaptées à l'oreille de son auditoire. Voilà pourquoi les propos de cet homme saint parlent au cœur de l'occidental jeune, libre et bouillonnant d'énergie. Cyril Tirandaz. Note de traduction. Cet ouvrage est la traduction française du livre anglais Abdu'l-Bahá in London, publié à l'occasion du 75e anniversaire du passage de Abdu'l-Bahá au Royaume-Uni. Le canevas original de ce livre fut en fait édité pour la première fois grâce aux bons offices de Lady Blomfield en 1912. La présente traduction française a donc été réalisée à partir de l'édition commémorative de 1987. Il convient de souligner trois points avant que le lecteur n'entreprenne la lecture de cette traduction. Premièrement, une note de l'éditeur de l'édition anglaise de 1987 spécifie que certains matériaux originaux qui ont servi de base à cet ouvrage ne sont plus disponibles et qu'en conséquence, il est dorénavant impossible de vérifier l'exactitude et la justesse de la traduction de certains mots de Abdu'l-Bahá. Il va donc de soi que si l'édition anglaise admet en son sein des mots inappropriés, ceux-ci se retrouveront inéluctablement dans la traduction française. À ce sujet, il est souhaitable de citer Shoghi Effendi. En ce qui concerne Abdu'l-Bahá à Londres, rien ne peut être considéré comme de l'histoire sainte tant que nous n'avons pas un texte original. Un compte-rendu sténographique en persan de ses paroles serait, bien entendu, plus digne de confiance qu'un rapport en anglais, car il n'a pas toujours été interprété avec exactitude. Cependant, un tel livre est de valeur et a certainement sa place dans notre littérature. Voir les principes de l'administration Bahaï, page 42, compilation, 2e édition 1983, maison d'édition Bahaï, Bruxelles. Deuxièmement, la présente traduction française s'est voulue la plus proche possible des mots et de la syntaxe d'origine. Cette approche fut choisie pour mettre en valeur la simplicité des termes et des tournures de phrases utilisées. Comme toute approche, elle comporte des inconvénients. Certains la trouveront trop anglicisée, d'autres peu académique, mais l'essentiel résidait dans l'authenticité et la fraîcheur du vocabulaire et du style. Enfin, il a semblé opportun d'ajouter à la traduction française des notes de traduction afin d'enrichir en quelques endroits la connaissance du lecteur ou simplement afin de lui faciliter la compréhension de certains passages. Il a également paru utile de compléter cet ouvrage d'une chronologie des voyages de Abdu'l-Bahá de 1908 à 1913. Le traducteur. Préface de l'édition anglaise de 1987. Sur une période de 23 mois, couvrant les années de 1911 à 1913, un prisonnier d'opinion, nom que nous lui donnerions de nos jours, accomplit de nombreux voyages à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Abdu'l-Bahá Abbas avait été libéré de sa captivité ottomane en 1908, après plus d'un demi-siècle d'exil, d'emprisonnement et de mise en résidence surveillée. Nota, l'édition anglaise indique l'année 1901, mais en fait Abdu'l-Bahá a été libéré en 1908 suite à la révolution des jeunes Turcs. D'ailleurs, Abdu'l-Bahá eut 65 ans en 1909. Il avait 65 ans et sa santé s'était détériorée au fil des épreuves qu'il avait subies. Cependant, après sa libération, il décida d'entreprendre cette aventure dans un esprit dont son nom même porte témoignage. Abdu'l-Bahá, le serviteur de Bahá, était le fils aîné de Mirza Hussein Ali Nouri, plus connu dans l'histoire sous le nom de Bahá'u'lláh, la gloire de Dieu. Personnage fondateur de la foi Bahaï, considéré par les Bahaï comme étant la manifestation ou le messager de Dieu pour notre époque. Après le décès de son père en 1892, Abdu'l-Bahá devint le chef de la religion dont il allait propager les idéaux et les enseignements. Il visita l'Angleterre en 1911, restant la plupart du temps à Londres, puis il y revint à la fin de l'année suivante pour une tournée de plus grande envergure qui le mena jusqu'à Édimbourg. Nota, pour avoir une vision globale des voyages de Abdu'l-Bahá après sa libération du joug ottoman, la chronologie des voyages de Abdu'l-Bahá de 1908 à 1913, présentée en dernière partie de ce livre. Dans ce pays, comme partout ailleurs, il fut bien accueilli. Son allure digne et ses manières pleines de tendresse rallièrent à lui ceux qui le rencontrèrent. Les souffrances qu'il avait subies sans amertume les émurent. Le message d'amour, d'unité, d'unicité de l'humanité et d'harmonie des religions qu'il donna séduisit tous ceux qui voyaient au-delà des structures rigides de classe, de croyance et de race qui prévalaient en ce temps-là. Les comptes rendus de l'époque et les articles de presse témoignent de l'étendue et du succès des talents de Abdu'l-Bahá. Pourtant, de prime abord, le résultat fut de courte durée, balayé par la frénésie du nationalisme et du militarisme qui s'abattit sur le monde en août 1908 et défait par le pessimisme et le cynisme qui suivirent ce que nous appelons encore la Grande Guerre. En fait, grâce à un développement patient principalement dirigé par Shoghi Effendi, petit-fils de Abdu'l-Bahá, qui lui succéda à son décès en 1921 et qui prit la tête de la foi bahaï jusqu'à sa propre mort en 1957, la communauté grandit, s'étendit, s'enracina et développa la structure administrative qui assurerait sa survie tout au long de bouleversements ultérieurs. En conséquence, on compte maintenant des bahaïs partout dans le monde, représentés par 150 assemblées nationales et 33 000 assemblées locales. Nota, en septembre 1993, on comptait 165 assemblées nationales, 20 435 assemblées locales, forte diminution suite à la révision des limites civiles des unités électorales en Inde, et la littérature bahaï était traduite dans 802 langues. La littérature bahaï est traduite en près de 800 langues et le statut de la foi bahaï en tant que religion mondiale indépendante est largement reconnu par les autorités religieuses et civiles. Les bahaïs s'efforcent de mettre en pratique les idéaux dont Abdu'l-Bahá incarna l'exemple par sa vie et par son travail. Il est donc opportun, alors que leur foi commence à être plus connue du public, que ce petit livre soit réimprimé. Un célèbre auteur anglais écrivit un jour que le passé est un pays étranger, on y fait les choses différemment. Peut-être, mais l'esprit qui se trouve derrière certaines choses ne change pas. Yahin Espalin, septembre 1987. Introduction de l'édition anglaise de 1912. Seuls quelques-uns des croyants de Londres et de Paris avaient eu le bonheur de pouvoir voyager à Akka. Nota aujourd'hui Akko en Israël, ville encore appelée Saint-Jean d'Acre dans les ouvrages d'histoire, pour rencontrer Abdu'l-Bahá, entendre sa voix, être inspiré et spirituellement nourri par sa personne. Le plus grand nombre demeurait dans l'attente de le voir et de converser avec lui, mais se heurtèrent à divers empêchements. Le croyant ferme qui avait diligemment gardé le flambeau en Angleterre avait pu penser que les fers de l'éducateur étant brisés et les portes de sa prison ouvertes, il pourrait recouvrer la santé et trouver une consolation dans le voyage et rendre enfin visite à son peuple de l'Ouest. Pour eux, une telle joie semblait presque inimaginable. Et quand cette visite tarda, ils s'interrogèrent d'un air dubitatif et la promesse de sa venue. Leur joie explosa lors de sa venue. Il arriva à Londres avec la quiétude de la plus grande paix, pratiquement sans y avoir été annoncé. Le premier et ultime dessein de son voyage était l'inauguration sereine de la plus grande paix. Installé sous le toit de celle qu'il avait appelée sa fille respectée, il se sentit heureux et immédiatement chez lui. Quant à la foule des visiteurs, elle accourait pour lui rendre hommage et recevoir sa bénédiction continuellement, jour après jour. L'atmosphère qui l'entourait s'harmonisait avec le ton parfait de sa courtoisie et de sa bienveillance infatigable. Des professeurs de différentes croyances vinrent et furent conquis par le charme de ses manières et la conviction de son âme. Son message d'unité pénétra profondément les cœurs de ceux qui l'écoutaient, quelle que soit la foi à laquelle ses auditeurs adhéraient. Nombreuses furent les questions et nombreux ceux qui les posèrent. Ses réponses, bien que probablement altérées par la traduction, surprirent et enchantèrent ceux qui l'entendaient. Sa maîtrise des questions qui les préoccupaient, ses réponses vives et ardentes, émerveillèrent et furent reçues cordialement. Quelquefois, on le persuada de marcher dans des rues grouillantes ou dans l'un ou l'autre des parcs embrasés par les rayons du soleil d'un splendide été. Parfois, et pour le grand plaisir et l'élévation des bahaïs, il fut convié dans les groupes de centre-ville. Là, il prononça des discours, habituellement brefs, mais toujours précis, portant directement sur sa mission ou sur son message. Sa voix était toujours vibrante avec des paroles d'unité et de paix. Seulement une fois ou deux se permit-il le plaisir de rendre visite à des amis à la campagne, dans un village typique où il se rendit avec un véhicule motorisé, et à Bristol, une grande ville dans l'ouest du pays, il trouva non seulement une hospitalité empreinte de gaieté, mais aussi une écoute révérencieuse et attentive. Lors de certaines journées mémorables, Abdu'l-Bahá s'adressa à de larges audiences dans des lieux de culte et de services sociaux. Le pasteur du temple de la cité, le révérend R.G. Campbell, M.A., le présenta avec des paroles pleines d'amabilité à une congrégation débordante qui entendit Abdu'l-Bahá avec un intense intérêt, la locution étant donnée en anglais immédiatement après. À l'église de Saint-Jean à Westminster, le vénérable archidiacre Wilberforce organisa un office similaire, la congrégation s'agenouillant à sa demande pour recevoir la bénédiction de Abdu'l-Bahá. À l'établissement de Passmore Edwards, sur la place Tavistock, un vaste auditoire s'assembla pour le voir et l'entendre. Une impression profonde est restée dans l'esprit et la mémoire d'hommes et de femmes de toutes sortes et de toutes conditions. L'extraordinaire sympathie de Abdu'l-Bahá s'avéra être en chaque circonstance aussi utile que son discernement et sa perspicacité pour traiter de difficultés, furent-elles subtiles ou évidentes. Quiconque l'approcha se sentit compris et fut étonné et réconforté par la maîtrise avec laquelle Abdu'l-Bahá analysait les différences entre les religions et surtout leurs points communs. Quelquefois dans des discours brefs mais magistraux, ou d'autres fois par le biais de questions et de réponses, des thèmes d'intérêt particulier ou général furent exposés et expliqués. Le séjour de Abdu'l-Bahá à Londres fut hautement apprécié, et son départ grandement regretté. Il laissa derrière lui de très nombreux amis. Son amour avait fait naître l'amour. Son cœur s'était ouvert à l'Ouest, et le cœur de l'Occident avait refermé son étreinte sur cette présence patriarcale venue d'Orient. Ces paroles produisaient un effet non seulement sur ses auditeurs présents, mais encore sur les hommes et les femmes en général. Sa vision était si optimiste, son âme si encline à la proclamation des principes d'unité et de paix, qu'il n'était pas permis que ses discours et ses réponses ne soient pas rapportés. Cette tentative de les reproduire au profit de tous ceux qui les liront est faite dans l'espoir réel et certain qu'à travers eux, le but et le travail de l'orateur soient saisis et ses efforts mis en valeur par les adeptes de toutes les croyances et les habitants de toutes les régions. Eric Hammond. Texte en prose datant de l'édition anglaise de 1912. Les douleurs du monde qui enfante. Pourquoi les nations sont-elles dans les douleurs de l'enfantement aux derniers confins de la terre? De l'est à l'ouest, quels sont ces signes? Quel sauveur naît dans la douleur? La Chine se réveille de son sommeil séculaire, car la contrée du soleil levant a montré à l'Est qu'elle peut rivaliser avec l'Ouest en marchandises et en armes à feu. Jaune et basané, mongol et mort, tu compteras avec ceci, mon fils. Qui reliera l'Est à l'Ouest? Qui les unira? Le Seigneur Bouddha, l'Illuminé, ou celui qui vient de la plaine du Jourdain? Le prophète d'Allah, ou celui qui depuis peu a foulé le Carmel de ses pieds? Le fils le plus saint de Perse qui brilla de la splendeur de Dieu? Jamais l'Est ne s'attachera à l'Ouest, tant que les dieux ne partageront pas la même demeure. Le musulman dans le Coran entend la vérité qu'il doit apprendre. L'hindou dans les Védas voit le chemin que ses pieds devraient emprunter. En Moïse et les prophètes, le juif restaure son âme. Le chrétien, dans l'Évangile, trouve la vie qui est le tout. Et tous peuvent lire le même discours, quel qu'en soit le parchemin. Que Dieu est un, que les hommes sont un, que la foi est toujours la même, que l'amour est toujours le mot le plus proche pour exprimer ce nom sans nom. Telle est la croyance de l'Est et de l'Ouest, si tu en sondes les profondeurs, mon fils. Car la parole du Seigneur est unité, et la volonté du Seigneur sera faite. Les mains sont noires, blanches, jaunes ou marron, mais la couleur du cœur est une. Harold Johnson, avec l'aimable autorisation du Daily News. Remerciements de la traduction française. Le traducteur aimerait évoquer ici tout le soutien qu'il a reçu de la part de sa famille durant ce long travail. Les encouragements ont été constants et les relectures du texte français ont été nombreuses, souvent argumentées et toujours profitables. Toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la solidarité pleine d'affection démontrée à cette occasion et pour toute l'attention et l'application accordées au progrès de cette traduction. Le traducteur aimerait également remercier Madame Jacqueline Martin pour avoir bien voulu relire le texte dans sa version encore inachevée et Monsieur Simon Van Pamel pour sa révision méticuleuse et exhaustive qui a consisté à rapprocher chaque ligne traduite du texte anglais d'origine. Ce travail laborieux a demandé un grand dévouement et je ne puis que témoigner de mon appréciation sans réserve des efforts entrepris et de la qualité qui en résulta. Que vous soyez ici-bas ou parti dans l'au-delà, que vous soyez fille de Baha ou que vos actes soient votre foi, il vit en moi un amour roi qui jamais ne diminuera. Que vous soyez à mes côtés ou simplement dans mes pensées, que le Très-Haut vous ait guidé ou qu'il vous ait protégé, il vit en moi un feu de joie qui jamais ne s'éteindra. Quand vous vous rejoindrez là-haut et que vous danserez la vie, quand vous serez à nouveau de vos époux en compagnie, gardez-vous de nous oublier. Pensez ensemble à vos petits. Et pour qu'ils servent plus, priez que tous leurs efforts soient bénis, qu'ils soient dignes de vous aimer, et votre mémoire d'honorer. Et puis pour nous, n'omettez pas de bien saluer Abdu'l-Baha. Cyril Tirandaz, Mois des Noms, Herbaï 153, novembre 1996. Traduction est dédiée à mes deux grands-mères. Fin. Abdu'l-Baha à Londres. Maison d'édition Bailly, 205 rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique. ISBN 2-87203-101-4.